allons tourner ce matin dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 12. Romains, chapitre 5, verset 12, où il est dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Alors, nous débutons ce matin une série de messages sur la chute de l'homme. La chute de l'homme représente la clé afin de bien comprendre le pourquoi des Écritures. Il est impossible de passer sous silence cet événement sans que la compréhension de la Bible en soit affectée. Je dirais que la chute de l'homme fait partie intégrante du compte-rendu biblique. Le livre de Job, chapitre 15, verset 14, où il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? » Romains, chapitre 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Un grand nombre d'événements rapportés dans la Bible sont basés sur le fait de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Et le ministère de Jésus n'a du sens seulement qu'à la lumière de ce qui s'est vraiment passé dans le jardin d'Éden. Alors, j'aimerais débuter avec la condition originelle de l'homme. L'homme a été créé dans un état de maturité, un état de perfection. Pourquoi? Parce que ce que Dieu le fait avec une perfection. Parce que Dieu est parfait. Alors, l'homme a été créé, premièrement, juste et deuxièmement, à l'image de Dieu. Pourquoi juste? Parce que, premièrement, il y avait une harmonie parfaite dans tout ce qui formait l'homme. Deuxièmement, la sainteté de l'homme, ses qualités morales, fait que l'homme n'était coupable d'aucun mal quand il a été créé par Dieu. Alors l'homme était juste et l'homme était parfait à l'image de Dieu. Parce que l'homme a été créé saint. Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image. » L'image de Dieu dans l'homme renferme certaines facettes qui proviennent autant de l'image extérieure que de l'image intérieure de Dieu. Alors, l'homme possède en quelque sorte des caractéristiques propres à Dieu. Il est certain que on ne peut pas voir l'image de Dieu dans l'homme parce que Dieu est esprit et on ne peut pas voir nécessairement une ressemblance physique, mais on parle plutôt d'une ressemblance de la personne en soi, une ressemblance au point de vue spirituel, moral et social. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu. Quelques aspects de l'homme quand il a été créé. Alors l'homme avait, premièrement, un pouvoir de faire un choix. Dans sa condition originelle, l'homme avait la capacité de pécher ou de ne pas pécher. Le pouvoir de faire un choix. Même Dieu ne possède pas cette capacité. Parce que la Bible enseigne clairement que la nature de Dieu est telle qu'il est incapable de pécher. Et ça, c'est une marque distinctive de Dieu. Mais Adam possédait cette capacité de pécher ou de ne pas pécher. Sinon, si on ne peut pas faire un choix, on est quoi? Nous sommes des robots. Si Dieu ne nous donnait pas la capacité de faire un choix, alors nous n'avons aucune liberté. Alors, un aspect de la condition originelle de l'homme, le premier aspect, c'était que l'homme avait le pouvoir de faire un choix. Deuxième aspect, l'homme avait une suprématie sur la création. À l'origine, Satan détenait l'autorité sur la terre, mais il l'a perdu lorsqu'il a péché. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu créa une nouvelle race de créatures, l'homme, à qui il donna cette autorité. Adam a reçu l'autorité de dominer la terre. Il avait la suprématie sur la création. On peut le voir dans Genèse chapitre 1, verset 26. Troisième aspect de l'homme, c'est sa communion avec Dieu. Il était en communion avec Dieu. Genèse, chapitre 3, verset 8, déclare « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. » Alors régulièrement, sur une base, je dirais, journalière, vers le soir, c'est-à-dire lorsque le soleil se couche, Dieu apparaissait sous une certaine forme visible à Adam et Ève. Et Dieu s'entretenait avec eux. Alors, l'homme, au début, avait une communion continuelle avec Dieu qui se manifestait par une rencontre face à face. Et ça, à chaque jour. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Même si vous me dites, oh, moi, j'ai une communion régulière avec Dieu, oui, d'une certaine façon, parce qu'on a l'Esprit de Christ, mais on ne peut pas dire qu'on avait cette rencontre-là face à face comme Adam l'avait au début de la création. Un autre aspect, le quatrième, c'est l'environnement où l'homme était. L'environnement de l'homme était le jardin d'Éden. Dans ce jardin, il y avait de la nourriture en abondance pour l'alimentation de l'homme par l'entremise de différents arbres fruitiers. Il y avait l'arbre de vie qui servait à maintenir la vie elle-même. Et l'homme devait faire un certain travail manuel qui n'était pas pénible, mais il devait quand même travailler dans son environnement. Cinquième aspect, c'est que l'homme avait une certaine responsabilité envers Dieu. Il était obligé de cultiver et garder le jardin, Genèse chapitre 2, verset 15, et deuxièmement, il devait obéir à Dieu. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Alors, ce n'était pas quelque chose de tellement compliqué. la responsabilité de l'homme, cultiver, garder le jardin et obéir à Dieu. Mais quand l'homme a été créé, l'homme était dans une période de probation. Dieu a mis une période de probation pour l'homme pour savoir vraiment si l'homme obéirait à Dieu. Alors, premièrement, Dieu a envoyé une épreuve à l'homme. Alors, l'épreuve de l'homme était la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Faire l'expérience de manger de cet arbre signifiait que la connaissance peut établir la différence entre le bien et le mal. Alors, Dieu a mis une épreuve à l'homme. Dieu a montré l'arbre à l'homme et lui a dit une chose. Il dit, tu peux manger des fruits de tous les autres arbres, mais celui-là, tu ne lui touches pas parce que lorsque tu vas en manger, tu vas avoir une connaissance. Et c'était très clair parce qu'il faut bien comprendre que que Adam et Ève avaient une pleine connaissance. C'était des gens excessivement intelligents. Alors, ces gens-là savaient ce qu'ils faisaient. Ces gens-là savaient qu'après avoir mangé de cet arbre, ils n'auraient plus l'éloge de Dieu parce que Dieu a vraiment dit de ne pas toucher à cet arbre-là. Alors, Dieu a mis une épreuve à l'homme. On peut lire, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Écoutez, la nature de l'épreuve était très simple. Il était permis à l'homme de manger de tous les arbres du jardin, à l'exception d'un seul. L'homme n'avait reçu qu'un seul commandement restrictif. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que Dieu donne de grosses épreuves? Non. L'étendue de l'épreuve était très limitée et très facile dans sa nature. Pourquoi? Parce que, premièrement, il ne pouvait pas avoir de convoitise. Parce que l'homme était le seigneur de la terre. Alors l'homme ne pouvait pas convoiter d'autre chose, parce que tout lui appartenait. De plus, il ne pouvait pas y avoir d'immoralité, comme on voit aujourd'hui, parce que l'homme était marié qu'à une seule femme. Alors c'était la seule femme vivante sur la terre. La seule possibilité d'échec de l'homme se trouvait dans le rejet de la volonté de Dieu. Donc, l'étendue de l'épreuve était plutôt restreinte. Et je dirais même qu'il n'y avait aucune raison pour ne pas réussir cette épreuve. Le but de l'épreuve était de mettre l'homme à l'essai afin que soit éprouvée sa sainteté. Parce que Dieu avait dit, je t'ai créé saint. Puis la durée de la période de probation était temporaire. C'était seulement pour un certain temps que Dieu donnait une épreuve à l'homme. Puis l'objectif, C'était simplement de confirmer la sainteté de l'homme. Comment peut-on confirmer, savoir que la personne est obéissante? Si on ne lui donne pas une épreuve. Alors, la tentation est arrivée. La tentation qui a provoqué la chute de l'homme. Alors, nous lisons dans Genèse chapitre 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors, il y a eu une tentation. Et le serpent est arrivé. Et il a dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Vous savez, il n'y avait rien de mal à manger dans le jardin d'Éden. Parce que manger comble un appétit. Et Dieu avait dit que leur avait dit qu'ils pouvaient manger de n'importe quel arbre de jardin à l'exception d'un seul. Alors, ça devait être probablement un buffet, je peux dire ça comme ça, un buffet d'arbres fruitiers, ça devait être très, très bon. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y a trois choses. La tentation est arrivée. Et vous savez, quand il y a une tentation, il y a trois domaines de tentation. On peut voir ça dans la parole de Dieu, au 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 16. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Puis la tentation dans le jardin d'Éden a effectivement eu lieu dans tous ces trois domaines de tentation. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Alors, il y a une convoitise de la chair. Agréable à la vue, convoitise des yeux. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'orgueil de la vie. Alors, la convoitise de la chair. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Si Ève avait faim, elle n'avait qu'à cueillir le fruit de n'importe quel arbre parmi le grand nombre d'arbres qui se trouvaient dans le jardin d'Éden pour combler sa faim. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était probablement bon à manger, mais les autres arbres l'étaient tout autant. Mais il y a une convoitise la chair. La femme a senti qu'elle pouvait satisfaire la convoitise de la chair, de sa chair, avec ce fruit en particulier. Deuxième aspect, la convoitise des yeux. L'arbre était agréable à la vue. Probablement avant la tentation, la femme n'avait peut-être jamais remarqué que cet arbre était forcément plus beau que tous les autres arbres. En effet, peut-être qu'il n'était pas probablement pas plus beau, mais soudainement, celui qui était interdit, devint le plus beau. Troisième aspect de la tentation, l'orgueil de la vie. L'arbre qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. La femme désirait être semblable à Dieu. Et n'oublions pas que c'est ce désir qui a causé la chute de Satan. On peut voir dans Ésaïe chapitre 14, verset 14, « Je serai semblable au Très-Haut. » C'est ce que Satan avait dit. Et Ève a exprimé à son tour le même désir. Elle voulait être semblable à Dieu, connaissant le bien et le mal. Elle voulait être semblable à Dieu. Elle eut trois mauvais désirs, Ève. Elle a désiré posséder ce que Dieu avait interdit. Dieu avait interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais elle voulait posséder cette interdiction. Elle eut un deuxième mauvais désir. Elle a créé le désir d'être autrement de ce que Dieu avait prévu qu'elle soit. Dieu n'a pas destiné Adam et Ève. Il ne les a pas destinés à être comme lui. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a créé l'homme et la femme des êtres humains et non pas des êtres divins. Ce n'est pas la volonté de Dieu que Adam et Ève soient divin. Et troisièmement, Ève a eu le désir de savoir ce que Dieu n'avait pas révélé, d'avoir des connaissances, vouloir s'approprier de connaissances cachées, des connaissances divines. Alors, il faut vraiment bien comprendre la chute de l'homme, comment ça a été vraiment que Adam et Ève avaient une très grande, très grosse responsabilité. C'était des gens qui étaient très connaissants, qui avaient une connaissance parfaite, parce que c'était des gens parfaits, créés à l'image de Dieu. Et ce n'était pas, il n'y avait aucune obligation, ce n'était pas, au départ, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Parce que si c'est ce que Dieu avait prévu, il n'y aurait pas eu un châtiment après. Il n'y aurait pas eu des conséquences. Il faut bien comprendre que ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden, c'est quelque chose de très grave. Ils ont amené vraiment une malédiction pour le reste des générations futures. Et à cause de la désobéissance, il y a eu un châtiment. Pourquoi un simple péché de désobéir à un commandement a-t-il occasionné un si grand châtiment? Premièrement, il s'agissait d'un petit commandement qui servait à éprouver seulement l'esprit d'obéissance. Si l'homme et la femme ne pouvaient obéir à Dieu à l'égard d'un petit commandement, comment Dieu pouvait-il se fier à eux pour obéir à un plus grand commandement? J'aimerais vous rappeler que c'était seulement qu'un petit commandement. Deuxième chose, le commandement que Dieu avait demandé présentait la revendication de Dieu pour sa propriété, son droit de propriété face à l'homme. Dieu voulait savoir si l'homme allait se soumettre à sa seigneurie. Dieu est le roi, l'homme et la femme étaient des êtres humains. C'était une question seulement de soumission. Troisième aspect, la sanction qui était reliée au commandement démontre que son importance n'était pas ignorée de l'homme. L'homme n'a pas échoué par motif d'ignorance. Il savait exactement en quoi consistait le commandement et il était au courant des conséquences qui en découleraient. L'homme n'a pas été tenu dans l'ignorance. Dieu avait dit, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Quatrième aspect, l'acte de désobéissance révélait une volonté portée vers la rébellion. C'est plus qu'un acte de désobéissance. Dieu les avait créés pour un but précis, avec une responsabilité, avec des objectifs, avec un environnement parfait. Il n'y avait aucune raison pour qu'il y ait une désobéissance. N'oublions pas qu'Adam et Ève étaient à l'image de Dieu. Ce sont des gens qui étaient intelligents, doués, beaux, forts physiquement, en bonne santé. C'est plus qu'une désobéissance, c'est une rébellion. Ils ont voulu avoir, posséder ce que Dieu avait. Très important. Alors, j'arrive à mon point principal. Je vous ai donné un peu vraiment qu'est-ce qui est arrivé dans le jardin. Pour bien comprendre, quand on parle de la chute de l'homme, pour bien comprendre l'aspect de la chute de l'homme, mais il faut savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alors, on arrive à la chute de l'homme. Comme j'ai dit tout à l'heure, la chute de l'homme représente une partie importante du compte-rendu biblique. On ne peut comprendre la Bible sans comprendre la chute de l'homme, sans savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alors, il y a une justification par Ève. Il y a eu une justification par Adam. Vous savez, il y a toujours une justification, comme un enfant. On va voir un enfant, on va lui dire, « Ah, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait quelque chose de mal. » Oui, mais c'est parce que toujours une justification. Alors, Ève, c'est de la bonne nourriture. Il n'y a aucune raison pour laquelle je ne devrais pas en manger. Cet arbre était agréable à la vue. Il avait une valeur esthétique. Pourquoi ne pas profiter des beautés de la vue, de la vie? L'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ce qu'Ève a dit. Qu'y a-t-il de mal à vouloir plus de sagesse? Alors, Ève a essayé de justifier. Et l'homme aussi. Adam a dit à Dieu, c'est elle qui m'a donné du fruit. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous savez, il y a toujours des conséquences. Il y aura toujours des conséquences. Peu importe ce que l'on fait, que ça soit bon ou mal, il y a toujours des conséquences. Il y a eu un sentiment de culpabilité et de honte. Genèse chapitre 3, verset 7. Pourquoi? On voit qu'Adam et Ève étaient nus depuis leur création. Et ils étaient inconfortables avec ça. Ça leur causait un problème. Ils ont eu la manifestation du désir et de l'effort à vouloir se cacher de la présence de Dieu. Et ça, ils n'avaient pas fait ça auparavant. Ils n'avaient jamais essayé de le faire. Alors, ils étaient inconfortables devant Dieu. Les conséquences? Il y a une conséquence sur le serpent. Il y a une conséquence sur l'homme. Il y a une conséquence sur la femme. Et ils ont été expulsés du jardin d'Éden. Et les effets de la chute, c'est le plus important. Oui, Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu qui est bon. Son plan est parfait, même si souvent on peut en déroger. Mais il y a eu des effets sur la chute d'Adam et Ève. Alors, il y a eu la chute, 6 effets concernant la chute de l'homme. Sa relation avec Dieu, son environnement, son corps, sa propre nature, sa culpabilité, puis le châtiment. Le premier effet de la chute se rapporte à la relation que l'homme entretient avec Dieu. L'homme avait une relation avec Dieu au départ dans le jardin d'Éden. Et sa relation a été coupée automatiquement. Ça c'est le premier effet de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Deuxième effet de la chute. Le règne animal a développé une lignée d'animaux qui sont devenus carnivores. Avant la chute de l'homme, tous les animaux se nourrissaient de végétaux. Alors, il y a eu un effet sur le règne animal, même si ça ne concernait pas les animaux nécessairement. Alors, les animaux qui mangeaient de l'herbe sont devenus carnivores. Et il y a eu une malédiction qui est tombé sur la nature et sur le monde matériel. Le travail manuel est devenu pénible. Au lieu d'être léger, il est devenu épuisant. Le produit du sol s'obtiendrait de façon laborieuse au lieu d'être facile à cultiver. L'homme allait devoir lutter contre les épines et les chardons, les sécheresses et les inondations. On voit ça dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Troisième effet de la chute de l'homme, c'est la relation entre l'homme et son corps. L'homme était maintenant exposé à la faiblesse et à la maladie. Faisons attention, il est incorrect d'enseigner que chaque maladie est l'œuvre d'un démon. Quelques maladies seulement le sont, comme on voit dans la parole de Dieu. Mais la faiblesse et la maladie du corps de l'homme proviennent exclusivement de la fragilité humaine qui en résulte de la chute de l'homme. L'homme était maintenant sujet à la maladie, mais l'homme était sujet à la mort physique. Il allait mourir un jour ou l'autre. Quatrième effet La relation entre l'homme et sa propre nature, ça veut dire la mort spirituelle. L'homme était maintenant mort spirituellement. Il ne profitait plus d'une communion ou d'une relation avec Dieu. L'homme est dépravé. On appelle une dépravation. Bon, c'est quoi la dépravation? C'est l'homme. L'homme est mauvais. Dans sa nature, il y a, à cause du péché, l'homme a hérité une nature pécheresse, une nature qui est mauvaise. Pas que l'homme n'a pas de bonnes qualités, pas que l'homme est dépourvu de conscience, mais que l'homme, cela signifie que l'homme est capable de commettre des péchés. Il est dépourvu d'amour et d'obéissance avec Dieu. Et ça, c'est un critère essentiel, exigé dans la loi de Dieu. Bien que l'homme ne soit pas coupable de tous les péchés, il faut bien s'entendre, la dépravation fait en sorte que le péché s'étend à chaque partie de l'homme. L'homme est esclave du péché. Il est mort par ses offenses et ses péchés. On voit ça dans Romains chapitre 7, verset 23. On peut le voir également dans Jean chapitre 5, verset 42. Son incapacité totale. L'homme n'a plus la capacité de faire un choix contraire, comme il avait avant la chute. On revient dans le jardin d'Éden. Dans son état, on peut parler d'innocence. Dans le jardin d'Éden, il était saint et parfait. Il pouvait choisir d'obéir ou de désobéir. Mais quand on parle que quand un homme est dépravé, l'homme n'a plus la possibilité de faire un choix contraire. Oui, il est toujours apte à choisir, mais seulement en conformité avec sa propre nature qui est esclave du péché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme a une incapacité totale. Il ne peut pas, de son plein gré, rendre sa vie, sa nature, totalement conforme à la loi de Dieu. L'homme ne peut pas changer sa condition. L'homme est toujours porté vers le mal. Incapable d'obéir à Dieu et de faire quelque chose qui le rendrait favorable à l'égard de Dieu. Alors, ce qu'on appelle, l'homme est dépravé. Cinquième effet de la chute touche la relation entre l'homme et sa culpabilité. L'homme est coupable. Il faut bien comprendre que l'homme est coupable devant Dieu. L'homme mérite d'être puni. Alors, étant donné qu'il est coupable de la loi de Dieu, l'homme a enfreint la loi de Dieu. Alors, si l'homme est coupable d'un crime, il mérite d'être puni. Et selon la loi de Dieu, il y a une conséquence, il y a une punition reliée à la désobéissance de l'homme. Si on prend quelqu'un dans notre société qui a fait un crime, qui a fait quelque chose de qui va contre la loi, il va avoir une punition. C'est certain. C'est la même chose qui s'est passée au début dans le jardin d'Éden. L'homme s'est rendu coupable devant Dieu et selon la loi de Dieu, il a une punition. Sixième effet de la chute et le dernier, c'est le châtiment. Alors l'homme est coupable. La teneur du châtiment pour le péché, c'est la mort. On voit ça dans Romains chapitre 6, verset 23. Le châtiment impliquait la mort physique, la mort spirituelle, ainsi que la mort éternelle. Il faut bien comprendre, c'est un processus. Et Dieu avait bien averti, vous mourrez. Quand on parle de mort, c'est la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Et ils étaient au courant de ce châtiment-là. Est-ce qu'il y avait une façon d'échapper à ce châtiment-là? Est-ce qu'il y a une façon? Oui, il y a une façon. Selon la loi de Dieu, la seule manière d'échapper à ce châtiment est d'accepter que quelqu'un d'autre paye pour nous. Et c'est justement pourquoi Jésus est mort. Parce que Jésus a pris le châtiment à la place de l'homme. Alors, c'est ça, c'est pour ça la bonne nouvelle. C'est que Jésus a accepté de payer le prix. Jésus a accepté de mourir à notre place parce que c'est ça qu'on méritait par la désobéissance de nos premiers parents. Malheureusement, c'est très, très grave qu'est-ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Alors, il y a eu des effets. Et le dernier effet, c'est le plus grave, c'est le châtiment. Alors, il y a une justice, la justice de Dieu, on ne peut pas passer à côté. L'homme est coupable. Alors, l'homme est coupable, mais Dieu a pourvu un moyen de sauver l'homme du châtiment du premier péché de nos premiers parents. Alors, c'est ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, la chute de l'homme, le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, les conséquences. Qu'est-ce que ça a apporté à l'homme? Qu'est-ce que ça nous a donné? Alors, très important de comprendre, de bien comprendre que l'histoire de la parole de Dieu s'est reliée à ce qui s'est passé au début dans le jardin d'Éden. Alors, que ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire racontée par nos grands-parents. C'est vraiment quelque chose de très, très grave qui s'est passé et que tout au long de la Bible, on voit après cela que Dieu essaie de se rapprocher, de ramener sa créature, de se rapprocher de la créature, de sa créature. Il y a tout un plan que Dieu met en fonction pour justement reprendre cette communion qu'il avait avec l'homme du début jusqu'à la fin. Et on voit dans toute la parole de Dieu tous les effets de ce péché-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, tous les effets, la malédiction, toutes les conséquences que j'ai parlé tout à l'heure, les effets de la chute de l'homme. On voit ça dans la parole de Dieu, et jusqu'à temps que le Seigneur Jésus reviendra, remettre les choses à leur place comme c'était supposé d'être dans le Jardin d'Éden. On voit ça dans l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse. Merci.